Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.
Il ouvre une porte qui est une chambre. Il lui dit, tu la reconnais? Oui, celle de mon père. T'es bien amusé avec lui ici, hein? De bons souvenirs? Non. Il ne dit rien. Et lui dit,
tu vas vivre une dernière jouissance, ma chérie. Celle-là, tu ne la connais pas. Elle lui sourit. Et d'un geste brusque, il la fait tomber sur le lit. Elle la renverse. Un geste brusque, il lui a donné un coup de poing. Il en profite, pendant qu'elle est assommée, pour prendre dans le tiroir de la table de nuit. Et lui dit, ça va t'endormir un peu, ça me permettra de t'attacher sur le lit, je te laisserai comme ça, tu mourras de faim et de soif dans ce lit de plaisir. Il se penche sur elle avec la seringue. Elle revient à elle, d'un geste brusque, avec ses bras et ses pieds, et se redresse, et se lève, d'un bond. Il se redresse, et sort de la chambre en vitesse.
Il la suit. Elle court dans le couloir. Elle sait qu'il le suit. Qu'elle le suit, qu'il la suit. Elle descend les escaliers en vitesse. Il lui crie. Tu ne pourras pas m'échapper. Arrivée au rez-de-chaussée, elle voit que la porte est fermée à clé. Elle panique. Elle ne sait plus où elle est, ce qu'elle doit faire. Il s'approche. Elle voit une porte. Vite. Elle ouvre. Ça donne à des escaliers qui descendent au sous-sol. Elle descend. Une pièce avec des outils de jardin. Alors, elle sursaute. Il est derrière elle. Elle se retourne. C'est bien lui qui a dit alors. Il est en sueur, essoufflé. Il s'avance vers elle. Elle recule. Prend à la main. Un manche. Et le lève au-dessus de sa tête. Puis, un geste pour se défendre. Elle fait un geste horizontal avec le manche. Tout d'un coup, elle voit Serge faire la grimace du sang au cou et à la tête qui tombe à terre. Enjambe le corps. La tête est tombée à terre. Le corps n'a plus de tête. Elle monte les escaliers en vitesse. Une fois en haut, elle se souvient que la porte a été fermée à clé. Elle cherche une issue. Va vers une fenêtre. L'ouvre. Elle entend derrière elle des pas. Se retourne. Dans l'encadrement du sous-sol, dans l'encadrement de la porte du sous-sol, apparaît le corps sans tête de Serge. Il s'avance vers elle. Oh ! Et d'un geste, elle ferme la fenêtre. Elle se trouve dans le parc. Elle se retourne et voit que le corps sans tête est tombé sur le ventre. Vite, elle court. Arrivée au portail, il est fermé. Elle fait le tour de la propriété. Voit un bidon qui est contre la maison. Elle le prend, le met vers le mur, s'agrippe à la gouttière. Puis,
monte sur le toit et se dirige vers le côté rue. Elle prend son courage à deux mains et descend par la gouttière. Arrivée en bas, elle court vers sa voiture. Elle entre dans sa voiture. Souffle et se dit qu'il ne faut jamais faire revivre les morts, qu'ils doivent rester morts. Et elle met sa voiture en route. L'histoire a énervé Judith. Elle n'aime pas qu'on la prenne pour une idiote. Elle va sonner à la porte de la maison de l'homme en noir, du vieil homme qui habite au fond de la cour. La porte s'ouvre, c'est domestique, elle lui dit, « Je veux le voir. » Il demande, « J'avais rendez-vous. » Elle lui dit, « Non, mais à moi non plus, on ne me donne pas rendez-vous. Et on met ma vie en danger. Donc, dites-lui que je veux le voir. » Domestique lui dit, « Bien, je vais voir s'il peut vous recevoir. » Il ferme la porte en la laissant dehors et se dit, ils me prennent vraiment pour une moins que rien. Elle attend furieuse. La porte s'ouvre, c'est le domestique qui lui dit, il veut bien vous recevoir. Entrez. Elle entre. Il ferme la porte. Et elle le suit. Il l'amène à l'étage. Frappe à la porte du bureau.
Entrez.
Il a fait entrer. Il est à son bureau et lui dit,
j'avais demandé à me voir.
Elle lui dit, oui. Il lui dit,
venez vous asseoir.
Elle va s'asseoir dans le fauteuil qui est en face du bureau.
Je vous écoute.
Elle lui dit, voilà, j'aimerais savoir pourquoi vous m'avez fait cette mauvaise farce. Il lui dit,
Serge.
Elle lui dit, oui.
Il lui dit, c'est pour vous apprendre à être plus simple et moins sûr de vous, vous durcir.
Elle lui dit, pas besoin de ça. Il lui dit,
c'est qui nous préparons sera très dur. Nous avons dû, c'est vous donner une épreuve pour vous aguerrir, même moi.
Elle lui demande, vous êtes satisfaite de mon passage? Il lui dit,
oui, mais vous êtes encore trop sensible, surtout vis-à-vis des beaux garçons. Elle lui dit, j'en suis vacciné. Et nous allons bientôt passer à l'acte. Il lui dit, t'es déjà parti. Nous ne pouvons plus reculer, même si nous apercevons que nous nous sommes trompés. Elle lui demande, trompé, il hausse ses épaules et lui dit, on peut toujours se tromper. De quoi ? De tout. Mais ça n'a plus d'importance. Mon rôle se termine bientôt. Après, je m'en vais et vous laisse. Elle lui dit, vous me faites peur. Tromper ? Il lui dit, ce n'est qu'un mot. Elle lui dit, terrible. Il lui dit, oui, peut-être, mais qu'importe. Nous ne sommes pas d'ici et n'appartenons pas à leur lignée. Et puis, il se peut que l'on ne s'est pas trompé. Il est plus sage de le penser. Pour qui ? Il lui dit. Pour moi, le temps ne compte pas. Mais pour eux, elle lui demande. Et la chose irréversible va se faire quand ? Il lui dit. Elle a déjà commencé, mais vraiment dans peu de temps. Il faudra que vous soyez prête. Elle lui dit, je suis toujours, et les autres ? Il lui dit, les autres ? Quels autres ? Elle lui dit, je ne comprends pas. Vous savez bien que ce ne sera pas nous, même. Mais que c'est d'autres, et non les autres, qui le font. Nous écrivons le scénario, mettons en scène, et disons moteur, mais la chose se fait. Mais nous restons en dehors de tout. Elle lui demande, et moi ? Il lui dit, vous et Harold, l'équipe, simplement des assistants metteurs en scène. Votre rôle est de diriger, et non d'agir, surtout pas. Parce que si vous agissez, on aura les projecteurs sur nous, et on saura que nous existons. Alors, elle lui dit, bien, il lui dit, vous avez beaucoup agi, mais à une époque où c'était encore possible, parce que la machine n'était pas encore en route. Mais maintenant, elle l'est. Elle lui dit, et Harold ? Il lui dit, il termine le préambule, il en met du temps, et après, il reste tranquille. Elle soupire et lui dit, bien. Il lui demande, vous avez autre chose à me dire ? Elle lui dit, non, mais pour plus tard, après tout ça, la suite, le but pour nous. Il lui dit, que tout nous appartienne. Elle se lève. Merci. Et elle le quitte. Elle se dit, elle n'a plus qu'à attendre. Que cette histoire de Serge n'était qu'une blague. Thank you.
passe, la vie reprend pour elle normalement. Harold est dans son bureau. Harold de Grimaud, 25 ans, grand, mince, blond, yeux bleus, très élégant physiquement, porte un costume marine. Monsieur a fait ses études de littérature, ça ne l'a pas empêché de faire Saint-Cyr. Il est membre des Sept Soleils, directeur général adjoint du groupe Franblanc et compagnie, habite un appartement boulevard Haussmann. Harold se dit qu'il n'est que directeur général adjoint. Qu'avant lui, il y a Monsieur Mercier, Charles Mercier, 35 ans, grand, mince, blond, qui lui est directeur général et homme de confiance de Maurice Franblanc. C'est numéro 2 du groupe et lui, Harold, n'est que le 3. Il veut, il doit être le 2. Il réfléchit dans son bureau. Il se dit que Charles n'a aucun défaut, même pas pédé, autrement il l'aurait séduit. Il faut qu'il sympathise avec lui. Mais comment ? Un soir, qu'il est sorti de son bureau tard, Harold va au parking souterrain de la société, là où il a garé sa voiture, qui est près de celle de Monsieur Mercier. Il entre dans sa voiture. Il essaye de la mettre en route. Il n'y arrive pas. Arrive Monsieur Mercier. Il lui demande : vous avez des ennuis ? Harold lui dit : ma voiture est en panne. Je ne sais pas ce qu'elle a. J'arrive pas à la mettre en route. Mince ! Je suis pressé ce soir. Charles lui dit : si vous voulez, je peux vous conduire. Et demain, vous la faites réparer ? Harold lui dit : je veux bien, merci. Voiture. Charles le mène à sa voiture. Entrez. Il entre lui-même et met la voiture en route. Sorte du parking. Charles demande : je vous mène où ? Harold lui dit : nous connaissons à peine et pourtant nous travaillons dans la même boîte. C'est idiot. J'habite boulevard Haussmann. Et il le mène. Charles lui dit : c'est vrai, nous connaissons à peine. Thank you. Il arrive devant l'immeuble où habite Harold. Il va arrêter sa voiture.
Nous voilà arrivés. Harold lui dit : merci, c'est chic. Vous voulez boire quelque chose ? Charles lui dit : non, et puis c'est fait tard. Harold lui dit : mais si, venez, ça fera plaisir. Bien, j'accepte. Et ils sortent de voiture. Et Harold va le faire entrer dans son immeuble. Entrez. Ils entrent. Ils vont prendre l'ascenseur. Et à l'étage, il ouvre la porte de l'ascenseur. Puis, il le met dans son appartement. Il ouvre éclair. Entrez, Charles entre. Venez, allons au salon. Il le mène au salon. Ouvre la porte, éclair. Entrez. Ils entrent. Allez vous asseoir, là, sur un fauteuil. Charles s'assoit dans un fauteuil. Harold demande : qu'est-ce que vous voulez boire ? Un bourbon ? Cognac ? Charles lui dit : un bourbon, merci. Et Harold va le lui chercher. Il revient vers lui et fait le service. Tend le verre à Charles : merci. Fait un verre pour lui. Puis, il s'assoit en face de Charles. Après avoir bu une gorgée, Harold lui dit : ça nous permettra de mieux nous connaître. Vous n'êtes jamais venu chez moi ? Charles lui dit : oui, les rapports du bureau sont assez superficiels. Et puis, on a peu de temps. Harold demande : vous vivez seul ? Oui. Moi aussi. En ville ? Oui, mais j'aime bien la campagne. J'aime bien aller à la pêche pour me détendre. Harold lui dit : moi aussi. D'ailleurs, j'ai une maison de campagne près d'un lac très poissonneux. J'y vais très souvent. Charles lui dit : c'est bien ça. Vous avez de la chance. Moi, j'ai pas de maison de campagne. Harold lui dit : mais si vous voulez, je peux vous inviter. Charles lui dit : je ne sais pas, j'ai peur de déranger. Mais non, puisque c'est moi qui vous invite. Charles lui dit : c'est tentant. Harold lui dit : j'ai tout ce qu'il faut là-bas pour pêcher. Alors ? Charles lui dit : ma foi, oui, merci. Harold lui dit : il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Nous partons cette fin de semaine ? Charles lui dit : pourquoi pas ? Harold lui dit : bien, venez en bas de chez moi samedi matin à 8 heures. Il y a 2 heures de trajet. Prenez pull et tout, hein ? Charles lui dit : bon, j'y serai, je vous remercie. Il regarde sa montre et lui dit : je dois vous quitter. Harold lui dit : bien. Ils se lèvent tous deux et ils leur accompagnent. Alors lui dit avant qu'il ne parte, n'oubliez pas, samedi matin, 8h. Surtout n'en parlez à personne. Les gens ne doivent pas le savoir. Bon, merci et bonne nuit. Et il le quitte.
Le samedi matin, à 8h, Harold et Charles partent en voiture pour aller à la maison de campagne d'Harold. Charles est heureux et dit « Ça fait si longtemps que je n'ai pas pris de vacances. » Ils arrivent à 10h. La maison est au bord d'un lac, en dehors de tout, entourée d'une très dense végétation. Pour accéder à la maison, il faut prendre un petit chemin de terre. La maison est très près du lac. Harold va arrêter sa voiture près de la maison. C'est une petite maison d'un étage sans âge. Elle est grise et semble s'enfoncer dans la terre. Ils sortent de voiture. Prennent leurs bagages. Et Harold va ouvrir la porte de la maison. Entrez. Ils entrent. Ça sent une très forte odeur d'humidité. Harold dit, c'est très humide, c'est pour ça que j'ai acheté pas trop cher. Petit couloir qui donne à gauche à une petite cuisine rustique. En face de la porte d'entrée se trouve un escalier de bois étroit qui donne à un petit couloir qui donne à deux chambres et une salle de bain. Et le séjour. C'est meublé simplement avec des meubles de campagne simples mais solides et propres. Harold lui dit, c'est simple mais ça suffit pour les fins de semaine. Venez, allons à l'étage, ici il n'y a que la cuisine. Et il le mène à l'escalier, il monte les escaliers. Arrivé à l'étage, il ouvre une porte et dit, ici c'est votre chambre, j'espère que quelqu'un vous conviendra. Charles lui dit, c'est parfait. Harold va lui montrer le séjour.
pièce est assez grande, mais la maison, elle est bien agencée. Harold demande. Vous voulez boire quelque chose?
Oui, je veux bien.
Allez vous asseoir sur le fauteuil, là, dans le fauteuil, là. Qu'est-ce que vous voulez boire? Jean lui dit. Un bourbon. Une demi-heure plus tard, Charles est allé dans sa chambre et a rangé ses affaires et s'est changé. Harold est allé à la cuisine préparer le repas. Il a amené de Paris des provisions pour le premier repas et des produits congelés. Charles regarde à la fenêtre de sa chambre et est très heureux d'être là, entouré de nature. Le paysage est très beau, l'eau a plein de reflets lumineux, c'est très joli. On frappe à la porte de la chambre. Entrez, c'est Harold qui lui dit. Le repas est prêt, si vous voulez venir. Charles lui dit, oui, j'arrive, de suite. Pendant le repas, qu'ils prennent à la cuisine, parce qu'elle est suffisamment grande, et puis c'est par commodité. Ça vous gêne pas que nous prenons le repas à la cuisine? Charles lui dit, non. Bien sûr, tout en mangeant, Harold demande. Vous êtes marié? Charles lui répond. Je vis seul, j'ai jamais été marié. Mais j'ai, disons, aimé une personne et qui est décédée, lorsque. Harold lui dit. Je suis navré. Charles lui répond. Il y a déjà quelque temps de ça. Mais disons que durant ces années, je lui reste toujours fidèle. Au repas, Harold lui dit, nous irons à la pêche demain matin. Cet après-midi, nous ferons simplement le tour du lac, comme vous voudrez. Et ils font le tour du lac. L'air est doux, il fait soleil. Il n'y a aucune habitation aux alentours. La végétation les cache bien. Le lac est assez grand.
Après avoir fait le tour du lac, ils sont entrés et ont bu un verre au salon. Ils ont discuté des choses et d'autres. Ils se sont détendus. Avant d'aller se coucher, Harold lui dit: nous nous levons demain matin pour pêcher, disons à 8 heures. Cela vous va? Oui, merci. Le lendemain à 8 heures, ils sont sortis de la maison, habillés en pêcheurs. Harold mène Charles à la barque qui est près de la maison. Il la met à l'eau, saute dedans et Harold rame. Harold lui dit: ils ont pêché un peu plus loin, là où il y a plus de poissons. Il rame. Harold lui demande: vous savez nager? Non, mais pour la pêche. Oui, pour la pêche. Harold rame. Ils arrivent à l'autre bout du lac. Ils se met à un endroit près des feuillages. Comme ça, nous aurons de l'ombre. Préparent leurs lignes, etc. Harold dit à Charles: venez vous asseoir là. Il montre un bord de la barque. Charles se lève et lorsqu'il dépasse Harold, qui est derrière lui, d'un coup, Harold le pousse à l'eau. Charles gigote, empêtré dans son barda. Il essaye de remonter à la surface. Il crie. Harold prend une rame et lui donne des coups sur la tête. Charles ne sait pas nager. Il n'arrive pas à s'éloigner des coups de Charles. Charles lui donne plusieurs coups. Le sang sort du crâne. L'eau rougit. Charles gigote toujours. Harold continue à lui donner des coups. Gigote, gigote. Harold continue à donner des coups. Yeah.
Ça a duré quelques minutes, très rapide. Harold, en sueur, lui a donné de très nombreux coups. Une fois que le corps flotte, Harold se jette à l'eau. Cette eau qui a du sang. Il nage dans cette eau qui a du sang. Il prend l'encolure de la veste de Charles. Il prend Charles. Et, en nageant, il le mène jusqu'à la berge. Puis, il plonge le corps avec lui. Et sous l'eau, il réussit à coincer le corps entre les racines d'arbres. Bien plus fortement. Comme ça, le corps ne pourra pas remonter à l'eau. Il sera mangé par des poissons et petites bêtes d'eau. Personne ne retrouvera Charles. Charles est parti sans papier. Et personne ne sait qu'il est venu ici. Harold remonte à la surface et nage jusqu'à la barque. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.